Laudetur Jesus Christus.
Quelle suite donner à l'attaque inédite de l'Iran contre Israël? C'est la question que se pose le gouvernement israélien alors que la pression de la communauté internationale sur Tel Aviv se fait plus grande ces dernières heures pour éviter une escalade. Il y a un an, le Soudan sombrait dans la guerre civile. Depuis, le pays est frappé par une crise humanitaire, politique et économique sans précédent. Et aucune solution de sortie ne semble être possible à brève échéance. Chancelier allemand en Chine pour une visite très commerciale mais très délicate. L'Allemagne est confrontée à la concurrence sévère des entreprises chinoises alors que les siennes peinent à se développer dans le pays. Haïti dispose enfin de son conseil présidentiel de transition depuis ce week-end, mais il va falloir encore du temps pour que l'ordre règne de nouveau dans le pays. La tâche s'annonce compliquée.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Le Moyen-Orient au bord du précipice. Le nouvel avertissement lancé par le chef de l'ONU plus de 24 heures après l'attaque inédite de l'Iran. Tous les regards se tournent maintenant vers Israël. Quelle sera la réaction de l'État hébreu? Benjamin Netanyahou avait menacé Téhéran de représailles. Il a réuni hier soir son cabinet de guerre à Tel Aviv. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les précisions sur place, d'rien de ménage.
Les délibérations du cabinet de guerre israélien ont duré plusieurs heures hier soir. Au centre des discussions, une éventuelle riposte militaire contre Téhéran. La plupart des membres de ce cabinet y seraient favorables, rapporte ici la presse israélienne, mais ils restent divisés sur le calendrier comme sur la méthode. Depuis cette réunion, aucune annonce officielle de la part du gouvernement. En attendant, l'armée israélienne est chargée d'établir différents plans d'opération. Dans l'immédiat, le risque d'une riposte israélienne imminente semble donc s'éloigner. C'est aussi le résultat des pressions internationales et en particulier celle des États-Unis. Face à Benjamin Netanyahou, Joe Biden plaide pour une riposte diplomatique plutôt que militaire. S'ils ont directement défendu Israël face aux tirs de drones et de missiles balistiques iraniens, les États-Unis affirment clairement ne vouloir ni guerre ni escalade avec Téhéran. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
Ils appellent à Israël pour ne pas s'engager dans un engrenage fatal se multiplie en effet. Londres, Moscou, Berlin, Paris, tous veulent éviter que le conflit dans la bande de Gaza ne s'étende à l'ensemble du Proche-Orient. Hier, c'est le pape lors du Regina Coeli qui a demandé que cesse toute action qui puisse alimenter une spirale de violence. Personne ne doit menacer l'existence d'autrui, a-t-il dit, rappelant la position du Saint-Siège en faveur d'une solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens. François a également réclamé la libération de tous les otages retenu depuis le 7 octobre et l'acheminement de l'aide humanitaire pour les habitants de la bande de Gaza. Il y a tout juste un an, des combats éclatés à Khartoum, la capitale soudanaise, entre l'armée régulière du chef d'état-major Abdel Fattah al-Burhan et celle de Mohamed Hamdan Daglo, son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, les FSR. Les combats se sont déplacés depuis à d'autres villes du pays. Et ces combats ont fait des milliers de morts, provoqué une catastrophe humanitaire. Selon l'ONU, les combats ont ainsi fait plus de 6,7 millions de déplacés internes. Ahmed Abdelaziz est soudanaise, anthropologue, rattachée au CEDESH du Caire, le centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale. Selon elle, il est difficile de voir une issue à cette guerre civile.
À l'intérieur du pays, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se mobiliser car on est dans une situation de guerre active, une guerre qui se répand en fait au fur et à mesure. Donc, comme vous le savez, ça avait commencé l'année dernière à Khartoum et décembre dernier, c'était la catastrophe parce qu'il y a eu la chute de Madani qui formait le centre d'approvisionnement de tout le pays avec les soins médicaux, cette région dans la Jazira, dans le centre du Soudan. Et donc, avec la chute de cette partie du pays, les choses se sont aggravées. Et bien sûr, vous êtes au courant que la situation au Darfour s'aggrave au fur et à mesure aussi. Pour l'instant, je ne vois pas d'issue positive, en fait, s'il y a une continuation de guerre active. Mais il y a eu beaucoup de recrutements, justement, dernièrement, des volontaires, donc les personnes, les civils non armés et qui ont été armés par les deux parties. Donc, il y a une mobilisation très forte dans le pays et ça aggrave la situation. En tout cas, ça nourrit le combat actif.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Les Européens ne veulent pas voir ce conflit oublié dans l'agenda international. Une conférence se tient aujourd'hui à Paris, co-présidée par la France, l'Allemagne et l'Union européenne, sans la présence des belligérants qui n'ont pas été conviés. L'objectif de cette réunion est de coordonner les initiatives de médiation et de recueillir aussi des fonds pour aider la population civile. À l'ouverture des travaux, plus de 840 millions d'euros ont ainsi été promis. Olaf Scholz, pour la seconde fois depuis son arrivée à la chancellerie, est en Chine. Le chef du gouvernement allemand y effectue une visite de 3 jours, commencée hier. Visite au fort accent économique. Le chancelier allemand est accompagné en effet d'une nombreuse délégation de chefs d'entreprise, car entre les deux partenaires commerciaux, les relations sont délicates. Les explications à Berlin de Delphine Nerbollier.
C'est un exercice d'équilibrisme qu'Olaf Scholz mène depuis hier en Chine. D'un côté, le chancelier vient y plaider un renforcement des relations économiques avec le géant chinois. Pékin est un partenaire commercial central pour l'industrie allemande. Or, les deux pays traversent une phase difficile avec une croissance au ralenti. De l'autre, Olaf Scholz doit parler des choses qui fâchent, les problèmes de concurrence déloyale, les difficultés d'accès au marché chinois. 3/4 des entreprises allemandes déjà installées dans le pays se plaignent de tels problèmes. Et elles ne sont pas les seuls. L'Union européenne a entrepris un bras de fer avec Pékin, accusé d'inonder le marché européen avec des produits bon marché subventionnés. La visite du chancelier allemand vise ainsi aussi à relayer le message de l'Europe. La position allemande est d'autant plus délicate que Berlin navigue entre deux eaux. Elle souhaite continuer à commercer avec Pékin tout en diversifiant ses clients et ses marchés pour limiter sa dépendance, une stratégie qui peine encore à se concrétiser. Au niveau diplomatique aussi, cette visite sera l'occasion de parler des conflits actuels en Ukraine et au Proche-Orient, alors que la Chine soutient la Russie et l'Iran. Olaf Scholz rencontrera le président Xi Jinping demain à Pékin. Delphine Nerbollier, Berlin, pour Radio Vatican.
Pas question que les États-Unis disposent de plus de bases militaires dans l'archipel des Philippines. Déclaration aujourd'hui du président philippin, à quelques jours à peine après un sommet à Washington ayant réuni le Japon, les Philippines et les États-Unis pour parler essentiellement des tensions en mer de Chine méridionale. L'armée américaine dispose toutefois déjà de 5 bases et bientôt de 4 autres. Mais pas question donc d'aller au-delà. Pas question non plus pour Ferdinand Marcos de livrer son prédécesseur à la Cour pénale internationale qui enquête sur la politique de répression du trafic de drogue de Rodrigo Duterte. Les milliers de morts dans l'archipel liés à cette campagne poursuivie par les autorités actuelles pourraient constituer un crime contre l'humanité, estime la Cour. Les Philippines se sont toutefois retirées de la CPI en 2019 après l'ouverture justement de cette enquête. L'opposition dans les îles Salomon considère comme inquiétante l'emprise croissante de la Chine. C'est son chef, Daniel Swidani, qui l'a dit alors que l'archipel du Pacifique s'apprête à voter pour renouveler son parlement. Le premier ministre sortant, qui a mené une politique de rapprochement ces dernières années avec Pékin, promet d'approfondir ses liens s'il est réélu. Il aura fallu plusieurs semaines pour qu'il prenne forme et qu'il souhaite instituer le Conseil présidentiel de transition en Haïti a été officialisé vendredi soir. Cette instance, avec l'aide de la communauté des Caraïbes, des États-Unis, du Canada et de la France, doit permettre en principe le retour à la normale dans le pays. Mais reste à savoir quand et surtout comment. Les précisions de Franz Emmanuel.
Le décret annonçant officiellement la création du Conseil présidentiel de transition vient d'être publié au Moniteur, le journal officiel en Haïti. Et déjà une première question, quand arriveront les prochaines étapes, à savoir la nomination de Premier ministre et la mise en place de gouvernements provisoires pouvant exercer leurs fonctions jusqu'au 7 février 2026 au plus tard. Alors, qui est quand ? Le peuple haïtien, lui, a l'habitude d'attendre tout en faisant le constat que ses conditions de vie et de survie se dégradent chaque jour davantage. Un peuple haïtien qui croit de moins en moins en l'action politique, même sous couvert de la communauté internationale. Et pourtant, sur le papier, le Conseil présidentiel de transition entend s'attaquer au rétablissement de la sécurité publique nationale, à une réforme de la Constitution et bien entendu à l'établissement de conditions pour des élections démocratiques, crédibles et participatives. Sans oublier la restauration de la justice et de l'état de droit. Un programme gigantesque alors que le pays et surtout Port-au-Prince sont en plein chaos. La capitale vient de voir près de 100 000 de ses habitants fuir la violence des gangs, faisant régner leurs lois quand ils veulent, où ils veulent, sans guerre d'opposition. Fort de France, Franz Emmanuel, Radio Vatican.
Une dernière nouvelle avant de se quitter en provenance du Vatican. Le pape François préside depuis ce matin la session d'avril du C9, ce conseil de cardinaux qui l'entoure. La précédente réunion avait eu lieu en février dernier et avait vu pour la première fois la participation de 3 femmes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.